Une année d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. À quelques heures de l'an 2018, une semaine d'actualité devient donc une année d'actualité. Nous allons en effet revenir sur les grands moments de l'année qui s'achèvent avec des images sonores recueillies ces 12 derniers mois par la rédaction de RFI et en compagnie de notre invité Yann Mince du magazine Alternative Économique. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce magazine hebdomadaire sur le site de la radio RFI.fr et sur notre application pour votre téléphone mobile. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous retrouver, comme à chaque fois d'ailleurs, mais plus particulièrement pour ce numéro spécial que nous faisons ensemble depuis des années. Hein,
quelques années, oui. Quelques
rétrospective de l'année écoulée. Alors j'ai sous les yeux le hors-série d'Alternatives économiques intitulé « Quel monde en 2018 ?» Et dans l'éditorial qui commence, donc qui donne le ton de ce supplément, de ce hors-série, vous écrivez « Il est urgent que les ennemis les plus irréductibles se parlent pour nous éviter le pire, pensant à Donald Trump, pensant à la Corée du Nord ». Vous êtes un peu inquiet quand même dans ce texte.
Je suis inquiet de voir qu'un certain nombre de dirigeants de la planète, là en l'occurrence l'éditorial pointe deux de ces dirigeants qui sont Donald Trump, le président américain, et puis le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qui, au nom de l'audace, du politiquement incorrect, du fait de bousculer un peu le jeu habituel, sont prêts à prendre des initiatives qui me semblent extrêmement dangereuses. Alors, dans le cas de Donald Trump, s'il s'agit de, par exemple, de faire voler des avions américains, des bombardiers américains, à la limite de l'espace aérien nord-coréen, ce qui veut dire que si jamais il y a une erreur de pilotage, ça peut être mal interprété par un nord-coréen. Et du côté de Mohammed Bin Salman, le saoudien, ça consiste à avoir des initiatives un peu dans tous les sens, au Yémen malheureusement, on l'a vu aussi avec le Qatar, on l'a vu avec le Liban. Donc à essayer, au nom de cette idée de bousculer le jeu, de pas respecter les règles habituelles, ils peuvent faire des choses qui me paraissent extrêmement dangereuses et périlleuses, parce qu'un geste peut toujours être mal interprété par un adversaire et ça peut amener une escalade, et une escalade aujourd'hui avec des armes nucléaires, dans le cas américain ou nord-coréen, on ne sait pas où ça peut aller, mais même avec des armes conventionnelles, on peut faire d'énormes dégâts.
Alors, commençons notre voyage, on a beaucoup de choses à dire ensemble, à voir ensemble, Yann, et sans tarder, écoutons justement cette voix, celle de Donald Trump, le président américain, lors de son premier discours au Congrès le 1er mars dernier.
Ce soir, j'appelle ce Congrès à abroger et à remplacer l'Obamacare avec des réformes qui étendent les choix, augmentent l'accès aux assurances, baissent les coûts et en même temps garantissent une meilleure prise en charge médicale. L'action n'est pas un choix, c'est une nécessité. Donc je lance un appel à tous les démocrates ainsi qu'aux républicains du Congrès pour qu'ils travaillent avec nous afin de sauver les Américains du désastre Obamacare.
Alors Donald Trump, vedette de l'actualité 2017 pour le meilleur et pour le pire. Donald Trump dont l'ambition semble être de détruire l'œuvre d'Obama.
Oui, mais avec pour l'instant des succès assez relatifs, si je puis dire, puisque il citait l'Obamacare à l'instant, ça n'a pas marché. L'Obamacare n'a pas été aboli, ils n'ont pas réussi, les républicains du Congrès, à se mettre d'accord sur un autre texte pour le remplacer. En revanche, il a réussi sa réforme fiscale. Celle-là, effectivement, aura des effets probablement désastreux, notamment sur les inégalités. Les riches vont être plus riches, les pauvres encore plus pauvres. Je crois que Donald Trump, c'est vraiment l'illustration du chien dans le jeu de qui. Il veut absolument, ce que je disais tout à l'heure, il veut absolument bousculer, il veut détruire ce qu'il y avait avant du passé, faisons table rase, et il veut reconstruire quoi? Pour l'instant, on ne voit pas très bien ce qu'il veut reconstruire. L'avantage des États-Unis, c'est qu'il y a le Congrès, c'est une limite. On n'est pas dans une monarchie républicaine comme par exemple en France.
Alors en niant par exemple le réchauffement climatique, en niant désormais la neutralité d'Internet au moins aux États-Unis, et en reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël.
Oui, alors la reconnaissance de Jérusalem, à mon sens, ça a plus de portée symbolique que vraiment pratique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait encore un petit espoir, peut-être, que les États-Unis, d'une façon ou d'une autre, je pense pas à Trump, je pense aux États-Unis, puissent éventuellement peser sur Israël pour la négociation. Là, en reconnaissant Jérusalem, ils abandonnent une de leurs cartes de pression possibles. Donc, ça veut dire que Netanyahou, maintenant, peut faire pratiquement ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est coloniser de plus en plus la Cisjordanie pour rendre un État palestinien de fait invivable.
Une décision condamnée par l'Assemblée générale de l'ONU qui a au moins ce mérite de représenter ce qu'on appelle la communauté internationale.
Oui, mais en même temps, on sait bien qu'aux Nations Unies, c'est pas à l'Assemblée Générale que ça se décide. Les résolutions de l'Assemblée Générale n'ont pas de portée contraignante. Au Conseil de sécurité, en revanche, les États-Unis ont mis leur veto à un texte qui condamnait cette reconnaissance. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, en réalité, de contrainte. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte, comment dire, psychologique. Mais on voit bien que Donald Trump, ça ne le peut lui chaud.
Yann, autre image sonore et autre région, le Moyen-Orient et la chute de l'organisation de l'État islamique, symbolisée notamment par la prise de Raqqa le 17 octobre dernier. Explication alors de Nicolas Falaise.
Raqqa est déjà tombée plusieurs fois depuis le soulèvement de 2011 en Syrie. Ce sont d'abord les rebelles opposés à Bachar el-Assad qui, en 2013, prennent le contrôle de cette ville de la vallée de l'Euphrate. Quelques mois plus tard, un mouvement djihadiste chasse les autres factions et installe un pouvoir sans partage. C'est l'État islamique en Irak et au Levant qui deviendra le groupe État islamique et qui étend alors son califat autoproclamé de part et d'autre de la frontière syro-irakienne, attirant des milliers de djihadistes étrangers. Décapitations, amputations et flagellations publiques, c'est le règne de la terreur à Raqqa et c'est aussi le lieu où sont planifiés les attentats de novembre 2015 à Paris. Raqqa a été bombardée par la coalition internationale, puis prise d'assaut par les combattants arabo-kurdes des forces démocratiques syriennes en juin dernier. Sa reconquête a coûté la vie à un nombre indéterminé de civils et la plus grande incertitude plane sur la reconstruction comme sur l'administration future de la ville qui n'est pas retombée aux mains du régime de Bachar el-Assad.
Alors, quel que soit ce que nous réserve l'avenir, Yann, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle, cette chute.
C'est une bonne nouvelle et puis c'est, comment dire, l'illustration que Oussama Ben Laden avait raison contre Abou Bakr al-Baghdadi, le patron de l'État islamique, le so-called calife. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Oussama Ben Laden avait toujours conseillé aux combattants d'Al-Qaïda, aux groupes locaux d'Al-Qaïda, de s'infiltrer dans les groupes locaux, mais de ne pas gérer de pays. D'ailleurs, c'est ce qu'Oussama Ben Laden avait fait en Afghanistan. Les talibans géraient l'Afghanistan, lui préparait des attentats. Pourquoi? Parce que gérer un pays, c'est avoir un territoire à défendre contre des armées conventionnelles. On a bien vu là que face à la puissance de l'armée américaine, de l'aviation américaine notamment, et des troupes au sol fournies notamment par les Kurdes ou par l'armée irakienne, l'État islamique n'a pas pu défendre son territoire. C'est pas une armée conventionnelle, l'État islamique, même si ses combattants sont sûrement courageux et valeureux, peut-être pas tous. Mais en tout cas, gérer un territoire, c'est des ennuis à n'en plus finir. Oussama Ben Laden le déconseillait. Toutes les filiales d'Al-Qaïda ne l'ont pas fait. Les Chababs en Somalie ont essayé de défendre un territoire, ils l'ont en bonne partie perdu, mais c'est l'illustration que pour des djihadistes, conquérir un territoire, c'est s'attirer des tas d'ennuis et des tas d'ennemis mieux armés.
Alors, il y a l'organisation d'État islamique, il y a aussi la victoire du régime syrien, mais vous vous interrogez dans ce hors-série, peut-on parler de victoire du régime ?
Oui, c'est Bernard Kinle qui est un chercheur au CERI, le CERI étant le centre de recherche international de Sciences Po, qui est notre partenaire sur cette affaire, qui effectivement s'interroge sur le fait de savoir s'il y a victoire, parce que d'abord, tous les territoires ne sont pas reconquis. Certes, l'État islamique a été battu, mais la province d'Idlib, qui est une grande province dans le centre de la Syrie, à la frontière turque, est toujours contrôlée par des mouvements opposés au régime, et notamment par un mouvement djihadiste qui est la branche, enfin l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie, le mouvement Tahrir al-Sham, donc ça n'est pas fini. Et puis, comme le disait Nicolas Falaise, tout le nord de l'Irak est contrôlé par un parti kurde, allié avec quelques factions arabes, mais essentiellement un parti kurde. Et là, la répartition du pouvoir entre le régime et ce parti kurde est loin d'être acquise. Et là, on va voir comment notamment la Russie, qui est censée être l'arbitre des élégances maintenant en Syrie, va arbitrer entre le régime et les Kurdes.
Alors, le Kurdistan irakien mériterait qu'on y revienne, mais ça va effectivement.
Encore une autre affaire.
Ces derniers jours ont montré qu'il y avait une défaite évidente pour l'instant par rapport à l'armée irakienne des Kurdes d'Irak. Il nous faut nous attarder, Yann, sur le Yémen aussi, qui est au cœur de votre numéro, mais pas vraiment au cœur des médias depuis des mois.
Non, parce qu'il y a du côté, notamment des pays occidentaux, une espèce de, comment dire, on peut dire que les pays occidentaux sont mal à l'aise avec ce conflit, mais globalement ils suivent l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Pourquoi ? Parce qu'en face, il y a un mouvement, les Houthis, qui sont censés être soutenus par l'Iran. Ils sont soutenus par l'Iran, effectivement, mais probablement ils l'étaient beaucoup moins avant le conflit, et ce conflit a obtenu le résultat inverse de ce que voulaient l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt renforcé l'alliance entre ce mouvement yéménite et l'Iran. Donc c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. On fait quelque chose et on obtient le résultat inverse de ce qu'on voulait obtenir.
Et ça, c'est un des faits majeurs de l'année 2017, hein, cette lutte ouverte maintenant entre l'Arabie Saoudite.
Bien sûr, mais avec du côté de l'Arabie Saoudite, une faiblesse militaire évidente. Les Saoudiens ont des avions, ils peuvent bombarder, mais ils n'ont pas de troupes au sol, ils n'ont pratiquement pas engagé de troupes au sol. Ils ont fait venir des mercenaires soudanais. L'armée iranienne est beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace, je crois, sur tout un tas de plans. Pas forcément sur le plan de l'aviation, mais sur le plan des fantassins, que l'armée saoudienne. Donc, on sent bien qu'il y a de la panique du côté des Saoudiens, il y a de la peur, voire même de la paranoïa, et la peur est mauvaise conseillère. On le voit, le prince héritier saoudien fait un peu n'importe quoi.
Une année dans le monde.
Et partons pour l'Asie maintenant, Yann, et destination évidemment la Corée du Nord, un des pays dont on a le plus parlé en 2017. Écoutez par exemple cette correspondance de Frédéric Ojardias, signée de Séoul, après un des tirs de missiles nord-coréens.
La Corée du Nord veut acquérir au plus vite l'arme nucléaire et les missiles qui l'accompagnent. Depuis l'année dernière, le régime multiplie les tirs et les quatre nouveaux missiles de ce matin sont accueillis avec calme par des Sud-Coréens qui sont habitués, comme Kim Kyung-gu, 22 ans.
À l'époque où j'étais à l'armée, je pensais que chaque tir était un cas d'urgence nationale. Mais maintenant, les Nord-Coréens lancent des missiles tellement souvent, cela ne me fait plus rien.
La presse et les télévisions enchaînent cependant les éditions spéciales et soulignent les avancées rapides du programme balistique nord-coréen. Monsieur Kim, 40 ans, et Madame Kim, 46 ans.
Quand la Corée du Nord tire des missiles, cela ne me fait pas peur. Mais la façon dont les médias en parlent, cela me donne une impression terrifiante. C'est à ce moment-là que je m'inquiète.
Je pense que nous devons apprendre à nous protéger seuls, par nos propres moyens, sans l'aide américaine.
Le président sud-coréen par intérim, Hwang Kyo-han, parle lui de menaces réelles et imminentes. Il a promis de déployer au plus vite un bouclier antimissile américain controversé, un bouclier qui ulcère la Chine, une façon aussi de rappeler à Pékin de mieux contrôler son allié nord-coréen.
Année 2017 marquée aussi évidemment par l'exode des Rohingyas birmans au Bangladesh. Écoutez par exemple ce reportage de Sébastien Farcy.
Une centaine de personnes est entassée sous un grand préau en bois. Des femmes et des enfants en majorité, le visage épuisé, les yeux hagards. Ils n'ont souvent qu'un fichu sur la tête et un lungi autour de la taille. Les uniques biens qu'ils ont préservés dans leur fuite. Ces Rohingyas sont les derniers arrivés dans ce camp de Kutupalong. Certains depuis quelques jours, d'autres depuis quelques heures, comme Amida Begum, cette femme d'une trentaine d'années avait 6 enfants, 4 ont survécu dans l'exode.
Cela faisait un mois que nous vivions à la frontière, le long de la rivière, du côté birman. Nous n'avions pas d'argent pour payer le bateau et traverser. On nous demandait au moins 35 euros par personne. Alors finalement, nous avons construit notre propre radeau. Nous étions 25 personnes dessus. Cela nous a pris 4 heures pour traverser.
Ce sont donc les plus pauvres qui arrivent en ce moment. À côté de cette famille, Mohamed Amin, arrivé il y a 4 jours, cherche encore comment recevoir de la nourriture.
Il y a 2 jours, un homme a partagé sa ration avec ma famille, mais j'ai entendu qu'on pouvait recevoir des coupons de rationnement. Je vais aller en chercher.
Depuis un mois, environ 1000 Rohingyas arrivent chaque jour dans ces camps déjà surpeuplés.
Alors les Rohingyas à la une de l'actualité de 2017, évidemment pour de mauvaises raisons.
Oui, d'une part parce que effectivement c'est un problème ancien, et c'est un problème ancien qui a eu une actualité nouvelle cette année, parce que jusque-là les Rohingyas avaient été relativement sans défense. On n'avait pas vu surgir de mouvements armés au sein de la communauté Rohingya, ce qui, alors qu'il y a beaucoup de guérillas en Birmanie, les Karen, les Kachin, etc. Les Rohingyas n'avaient pas de mouvement armé depuis longtemps. Là, cette année, il y a un mouvement qui a commis effectivement des attaques contre des postes de police ou des postes des forces de sécurité birmane, qui a donné une réaction de répression extrêmement brutale.
Avec des exactions,
contre les civils, contre des villages brûlés, des enfants tués. Médecins sans frontières s'en est fait état après une enquête de mortalité récemment, parlant d'enfants de 5 ans battus à mort par les militaires birmans, ce qui a donné évidemment un exode extrêmement important. Il faut dire que le Bangladesh, qui jusque-là était parfois réticent à accueillir les réfugiés, les a accueillis, mais c'est 600 000 personnes, je crois, de tête. Ce qui est dans un nombre considérable, avec des camps immenses maintenant à la frontière. Et l'enjeu, c'est de savoir si ces Rohingyas vont être rapatriés ou pas. Il y a un accord entre le gouvernement birman et le gouvernement bangladeshi, mais évidemment, les Rohingyas n'ont strictement pas envie de rentrer dans ces villages où leurs parents ont été massacrés. Il faut vraiment parler de massacre par l'armée birmane, avec un silence quasi complet d'Aung San Suu Kyi, qui tient à garder de bonnes relations avec l'armée pour pouvoir conserver le pouvoir.
La Corée du Nord.
La Corée du Nord, c'est clairement un régime qui pense que l'arme nucléaire, pour reprendre une expression à la française, c'est l'assurance-vie. Alors l'assurance-vie non pas pour le pays comme en France, mais pour le régime. Et Kim Jong-un a regardé ce qui s'est passé en Irak, il a regardé ce qui s'est passé en Libye, on a tiré la conclusion que si Saddam Hussein ou Kadhafi avaient eu l'arme nucléaire, ils n'auraient pas été renversés parce que les adversaires n'auraient pas osé les attaquer. Donc il veut l'arme nucléaire pour pouvoir conserver le régime. Il a vendu cette idée que le pays est agressé à une partie de son opinion publique, parce qu'il y a une opinion publique nord-coréenne, même si elle ne peut pas s'expliquer librement. Et la Chine a peur de l'effondrement du régime coréen, et donc elle ne fait pas pression sur Pyongyang. Elle a peur pour deux raisons. D'une part, parce que l'effondrement du régime, ça voudrait dire des réfugiés en Chine, des millions de réfugiés, elle n'en veut pas. Et d'autre part, parce que ça fait une zone tampon entre la Corée du Sud et la Chine, et qu'elle ne veut pas disparaître, voir disparaître cette zone tampon.
Le régime en position de force, c'est ce que vous écrivez, c'est ce qu'écrit le série dans votre hors-série.
Antoine Bondaz, qui a fait un très très bel article sur la Corée du Nord.
Un mot sur Vladimir Poutine. Là, on sait qu'il n'aura pas d'opposant, en tout cas, ça ne sera pas Alexei Navalny qui a été rejeté ces derniers jours.
Non, je crois qu'il y a Mademoiselle Sobchak qui se présente. Mais je ne suis pas très inquiet, hélas, j'allais dire, pour la réélection de Vladimir Poutine.
Une année d'actualité.
Alors revenons en Europe, Yann, pour parler de la Catalogne. 1er octobre dernier, jour de vote, action de la police, quelques heures. Andrés, électeur battu par la police, écoutons-le.
On était battu par la police, fortement. Moi, j'étais dans la première file, ma femme la deuxième. Et j'ai reçu un grand coup à la face. Ils n'ont rien dit, ils sont seulement venus à battre les gens. Ils ne se sont pas identifiés. Il y avait un homme avec 83 ans qui était battu par la police aussi, avec la main foutue, avec le dos qui était battu par les matraques et aussi la jambe était cassée. Voilà, ça c'est la réalité d'un pays avec un gouvernement qui vient du fascisme.
Alors ça, c'était le début de la crise. Je sais que vous suivez les affaires de la Catalogne avec attention. C'est une région que vous connaissiez bien et ce que vous venez d'entendre vous énerve.
Ça m'énerve la référence au fascisme parce que...
C'est un peu fort, effectivement.
Oui, parce que ce qu'il y a toujours derrière, c'est cette idée que le Parti populaire de Mariano Rajoy serait une réincarnation du franquisme. Je trouve c'est insultant pour les victimes du franquisme que de comparer ce qui s'est passé le 1er octobre, ce qui est lamentable. Rajoy a absolument tort d'envoyer les forces de sécurité de cette façon contre les électeurs.
Il n'a pas été très habile dans cette crise jusqu'ici.
Évidemment pas. Oui. De là à qualifier ça de fascisme, ça me paraît, on est très très loin. Je rappelle que le franquisme, c'était des fosses communes avec des dizaines de milliers de morts dedans dans les premières années après la guerre civile. On n'est pas du tout dans cette affaire-là en Catalogne. D'ailleurs, les partis indépendantistes catalans, de façon beaucoup plus discrète, avaient violé les règles du Parlement catalan pour pouvoir adopter ce texte qui a permis l'organisation de ce référendum illégal. Donc il faut rappeler que c'était moins visible, c'était moins spectaculaire, mais il y a eu d'abord un viol de l'état de droit par les partis indépendantistes.
Mais en tout cas, depuis le début octobre, la crise continue. Il y a eu un nouveau vote qui a aussi donné une majorité, mais un peu plus serrée aux indépendantistes. Et c'est un peu trouble comme situation politique. Il y a une sorte de blocage aujourd'hui.
Il y a un blocage évident, puisque les indépendantistes ont obtenu une majorité en voix. En siège, pardon, mais pas en voix. Ce qui veut dire que si on organisait un référendum demain, si les résultats étaient les mêmes, il n'y aurait pas une majorité en faveur de l'indépendance. Il y a une majorité de sièges à cause du découpage électoral, des circonscriptions et du système électoral. Mais ce n'est pas une majorité en voix, c'est une majorité en siège. Maintenant, la question, c'est de savoir si ils vont arriver à constituer effectivement cette majorité, parce que les partis indépendantistes, ce qui les unit, c'est uniquement l'indépendance. Mais idéologiquement, il y a un parti de droite, un parti de gauche socialisant, et puis un parti d'extrême gauche. Donc, ils n'ont absolument rien en commun. Et en face, Rajoy, lui, s'en tient à la position, le droit, c'est le droit. La Constitution ne permet pas l'organisation d'un référendum négocié à l'écossaise. Donc, je crains qu'effectivement ça ne dure.
Yann, nous allons faire une pause. On aurait pu aussi parler de l'affaire Weinstein, hein, de la, cette parole libérée des femmes.
Heureusement libérée, enfin libérée.
Et oui, sur le harcèlement et les agressions sexuelles, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un des faits marquants de cette année 2017 aussi. On fait donc une pause, on écoute quelques nouvelles de cette fin d'année 2017 qui s'achève et on se retrouve dans 3 minutes.
À tout de suite.
Une année d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Retour à notre numéro spécial avec des images sonores recueillies par la rédaction et en compagnie de notre invité Yann Mince, journaliste au magazine Alternative Économique et rédacteur en chef d'un hors-série qui s'intitule « Quel monde en 2018 ?». Nous allons évoquer l'essentiel de l'actualité africaine de 2017 dans un instant, mais comme d'habitude, un regard sur la France et donc sur les 12 derniers mois dans notre pays. Douze derniers mois, Yann Mince, c'est bien sûr une élection présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron. Écoutons-le au soir du second tour au Louvre.
Vous avez choisi l'audace et cette audace, nous la poursuivrons. Et chaque jour qui vient, nous continuerons à la porter parce que c'est ce que les Françaises et les Français attendent, parce que c'est ce que l'Europe et le monde attendent de nous. Ils attendent qu'à nouveau, la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons.
Voilà une envolée lyrique qui a beaucoup marqué à l'époque, au soir de la victoire donc d'Emmanuel Macron, qui n'a cessé de faire la une des journaux depuis.
Oui, mais Emmanuel Macron, c'est un phénomène politique. Voilà, quelqu'un qui est jeune, mais qui surtout est, j'allais dire, est surgi un peu de nulle part. C'est parce que François Hollande en a fait son conseiller, puis ensuite son ministre. Et honnêtement, quand Emmanuel Macron a lancé sa candidature, je pense pas que beaucoup de gens étaient sûrs qu'il dépasserait le premier tour et qu'il deviendrait président de la République. Donc, c'est une ascension fulgurante, indubitablement. Ça a dit, à mon sens, beaucoup de choses sur le ras-le-bol des Français par rapport à la classe politique qui était en place jusque-là. Ça dit une volonté de renouvellement. De ce point de vue-là, c'était plutôt réussi, puisque lors des législatives qui ont suivi, il y a eu aussi un grand chambardement et beaucoup d'élus de La République En Marche.
Alors, c'est une majorité écrasante pour En Marche.
Absolument. Tous ne sont pas non plus des perdreaux de l'année. Il y a un certain nombre de gens venus d'autres partis politiques, de transfuges, etc. Mais il y a quand même beaucoup de nouveaux députés. Et moi, ce qui me frappe surtout, c'est... pour l'instant, en tout cas, le gouffre entre ce que disait Emmanuel Macron sur le renouvellement de la vie politique, etc., sur le fait qu'il fallait faire la politique autrement, plus collectif, plus participatif, et sa présidence très jupitérienne, pour reprendre l'expression consacrée, et le fait que le Parlement est, comme d'habitude, aux ordres. Alors, on peut dire peut-être que les députés d'En Marche découvrent leurs nouvelles fonctions, etc., mais pour l'instant, je les trouve assez soumis, assez godillots, pour reprendre une expression classique de la Ve République.
Avec une priorité donnée à l'économie et au social, avec la loi travail, qui finalement n'a pas déclenché les manifestations redoutées par le pouvoir et annoncées par les syndicats.
Non, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une partie des Français qui se disent « Bon, on a tout essayé contre le chômage, ça n'a pas marché, et essayons ça. » Et puis je pense qu'aussi les mobilisations du passé n'ont pas donné de grands résultats. Il n'y a pas eu de capacité à contraindre. On l'a vu sur la loi El Khomri, où il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Ça s'est négocié avec la CFDT, mais c'est pas tellement la rue qui a obtenu le résultat. Du coup, je pense qu'il y a peut-être un sentiment chez une partie des Français que les mobilisations sont pas très efficaces. En fait.
Alors Emmanuel Macron, qui bénéficie de situations plutôt favorables, il n'a plus d'opposition aujourd'hui.
Non, il n'a pas d'opposition. La logique voudrait que l'opposition vienne de son propre groupe parlementaire, vienne de République En Marche, qui est le plus grand groupe à l'Assemblée.
On commence peut-être à entendre des voix discordantes. On a entendu il y a quelques jours une députée qui...
Sur les questions de migration.
Oui, qui s'insurgeait.
Sur les questions elle s'est un peu insurgée, puis ensuite elle s'est un peu excusée de s'être insurgée, ce qui veut dire que...
Après, elle est rentrée dans le rang.
Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait qu'effectivement que les députés, non pas pour contester, mais simplement pour améliorer l'action gouvernementale, parce que c'est le travail du Parlement. On parlait la première partie de l'émission du Congrès américain. Il y a un Congrès là qui résiste, plus ou moins, mais enfin, il résiste de temps en temps. On n'a pas cette sensation en France, et je trouve que ça, ce serait un vrai renouvellement de la vie politique. Et je n'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron ait vraiment envie d'impulser un rôle plus important pour le Parlement, notamment un rôle de contrôle et de proposition.
Alors, puisque nous privilégions l'actualité internationale, l'ouverture internationale, il faut quand même aussi préciser qu'il a des circonstances favorables, avec une Angela Merkel bloquée par la composition de son nouveau gouvernement, un président américain qui est fort contestée et une Theresa May qui est bloquée, engluée dans les histoires de Brexit.
Oui, en même temps, le fait qu'Angela Merkel soit affaiblie, c'est plutôt mauvais pour lui parce que, certes, Emmanuel Macron a fait à la rentrée dernière un grand discours sur l'Europe avec des projets qui peuvent être intéressants. Simplement, il ne peut pas les faire tout seul. Sa capacité d'entraînement du reste de l'Europe, quoi qu'il dise de la France qui doit étonner et être elle-même, etc. Il a une idée un peu mégalomaniaque de la France, je trouve. Quoi qu'il dise de ça, en fait, il ne peut rien faire si il ne remet pas en marche le moteur franco-allemand, ou plutôt que le moteur franco-allemand ne se remet pas en marche. Et pour ça, il faut Angela Merkel, et Angela Merkel, pour l'instant, est paralysée, engluée dans des affaires de politique intérieure allemande.
Alors justement, Yann Kölich, dans le hors-série intitulé « Quel monde » en 2018, dont vous êtes le rédacteur en chef, la France seule n'est plus une grande puissance.
Non, je crois effectivement, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles Kupchan, qui est un analyste américain qui connaît très bien la politique européenne, qui est au Council on Foreign Relations, qui est un think tank prestigieux aux États-Unis. Je crois qu'il dit une chose qui, pour le reste du monde, est banale, mais qui, pour une partie des Français et pour une partie de la classe politique française, est un peu surprenante. Non, effectivement, la France n'est plus de taille à peser dans les affaires du monde. Alors, la France se fait l'idée. Emmanuel Macron l'a encore dit, la France doit redevenir une grande puissance. Je pense que c'est un fantasme. La France n'a pas les moyens. C'est un pays qui a une économie qui fonctionne gentiment, mais c'est pas non plus reluisant à ce point.
La croissance revient petit à petit.
Elle a quelques capacités militaires, ouais. Mais on oublie que l'affaire du Mali, par exemple, aurait été impossible sans le soutien américain en renseignement, en transport, etc. Donc la France n'a pas les moyens de peser seule. Voilà, c'est tout. C'est une banalité pour le monde, mais c'est malheureusement pas une banalité pour la France.
Alors avant de partir pour l'Afrique, justement, il nous faut dire un mot de la mort de Johnny Hallyday et surtout des jours qui ont suivi.
Oui, il y a deux choses dans la mort de Johnny Hallyday. Il y a indubitablement un écho populaire, clair. Et moi, je l'interprète comme le fait que c'était le rocker des gens qui n'avaient pas accès au rock anglais ou au rock américain parce qu'ils parlaient pas en anglais, simplement. Et qu'il y a une partie des gens, pour chanter du rock, il fallait qu'ils le chantent en français. Et Johnny était le représentant de ça. Il y a eu d'autres rockers français, mais pas à ce point populaire. Et puis en plus, il a su choisir sans arrêt des paroliers, des compositeurs plus jeunes que lui, qui lui permettaient d'être en contact avec les gens. En revanche, la récupération par Emmanuel Macron, moi j'ai été vraiment très 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 circonspect. Héros français, il faut pas exagérer. Avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour le chanteur, c'est pas un héros non plus, faut pas exagérer. Enfin, ou alors, qu'est-ce qu'on dit de Jean Moulin ?
D'actualité.
Et une année en Afrique, précisément, Yann Mince, maintenant, et d'autres évocations sonores. L'Afrique, d'abord meurtrie par le terrorisme, 18 janvier, attentat suicide contre des soldats maliens à Gao, des dizaines de morts, 13 août, attaque à Ouaga contre un café-restaurant, 19 victimes, et 14 octobre, attaque au camion piégé à Mogadiscio, au moins 300 morts. Écoutez ce témoignage d'un médecin somalien.
C'était sans précédent. Je n'ai jamais vu une telle explosion. C'était totalement, totalement, totalement différent. C'est un désastre. La déflagration a soufflé toutes les constructions alentour. C'était une place pleine de monde, remplie vraiment. Et quand l'explosion est survenue, elle a tout emporté. Les voitures, les bus. C'était une boule de feu. Les gens ont été brûlés vifs dans les bus, les voitures, et toutes ces victimes ont été emmenées à l'hôpital. Les proches, leurs familles sont venues. Tout le monde venait pour recueillir les restes de leurs proches. Mais personne ne pouvait les reconnaître.
Témoignage saisissant, Yann Mince, qui résume à lui tout seul l'horreur des attentats. On aurait pu aussi parler des attentats en Europe, Barcelone par exemple, Londres encore cette année, dans un pays toujours déchiré, qui a un nouveau président depuis février dernier, Mohamed Abdoulaye Farmajo.
Oui, un nouveau président, mais des tensions entre ce président et puis les États fédérés du pays, avec, comme le notait récemment un article de International Crisis Group, qui est un think tank qui s'intéresse à tous les conflits, en plus une exploitation par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis de ces tensions entre le pouvoir central et puis les États fédérés. Donc le pouvoir central reçoit de l'aide de la Turquie et du Qatar, et donc l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis du coup soutiennent les États fédérés contre l'État central. Ce qui évidemment n'améliore rien à la situation en Somalie. Je pense que de la fois l'exemple malien et l'exemple somalien, qui sont évidemment très différents, montrent que les filiales d'Al-Qaïda, dans les deux cas, savent exploiter les conflits locaux, les tensions locales. On l'a vu avec l'insatisfaction des Peuls au Mali. Et autant un pays comme la France est capable, il a été il y a quelques années en arrière, de chasser les djihadistes avec l'aide du Tchad quand même, des grandes villes, autant il est incapable de favoriser un accord entre les Maliens, pas plus que le Kenya n'est capable de favoriser un accord entre les Somaliens. Ce qui veut dire qu'il y a une limite de ce que les puissances extérieures, aussi armées soient-elles, peuvent faire pour favoriser un accord de paix. On peut défaire, quand on est une grande puissance, on ne peut pas refaire. Et ça, c'est une leçon importante, je crois, pour l'ensemble des grandes puissances et même des moyennes puissances comme la France.
Alors, il y a aussi Boko Haram au Nigeria qui a continué à sévir cette année. La grande affaire en Afrique, c'est aussi la mise sur pied du G5 Sahel pour essayer de contrer justement ces menaces.
Oui, c'est aussi un espoir. C'est aussi un espoir pour un pays comme la France de ne plus être obligé d'envoyer des troupes.
Soulager sa peine, oui.
Voilà. Et en même temps, c'est parfaitement normal. Je veux dire, ce qui est normal, c'est que les Africains prennent en charge la sécurité de l'Afrique. Ce qu'il y a, c'est que est-ce que les armées africaines et les hommes politiques africains sont capables d'arriver à ce résultat-là? Là, il y a une question ouverte.
Alors, l'autre grand dossier, c'était aussi le cas l'année dernière, mais particulièrement cette année, c'est les migrants, et notamment la situation en Libye, la situation d'esclavage, soulignée par un reportage de CNN, je crois, il y a quelques mois.
Oui, la Libye, ça va être encore ça va faire partie du feuilleton de l'année 2018, parce que le fantasme des pays européens, notamment de la France, mais aussi de l'Italie parce qu'elle est en première ligne, la France parce qu'elle a l'impression d'être juste derrière, c'est que on va pouvoir vider la Libye de tous ces migrants qui attendent de passer en Europe et que ces gens-là vont accepter de repartir chez eux. Certains repartent notamment parce que la situation en Libye est insupportable, mais beaucoup d'autres vont continuer à vouloir traverser. Et je trouve que les relations que la France et l'Italie aujourd'hui entretiennent avec certaines autorités de fait en Libye sont extrêmement inquiétantes. On est en train de sous-traiter le travail de garde-frontière à des gardes-côtes officiels, mais aussi à des milices qui ne le sont pas, et les relations entre tous ces acteurs libyens sont extrêmement troubles. Est-ce qu'on est aujourd'hui prêt, en France, à dire que on se fiche de savoir ce que deviennent les migrants quand ils sont en Libye, dans quel état et de quelle façon ils sont traités? Je trouve ça très très inquiétant.
Une année d'actualité.
Et nous allons continuer notre voyage avec un autre grand thème de l'actualité africaine, les élections, des élections. Celle du Kenya, par exemple, élection présidentielle en août, annulée et rejouée en quelque sorte en octobre. Uhuru Kenyatta déclaré vainqueur le 30 octobre. Reportage alors de Sébastien Demet.
Ouverture solennelle avec l'hymne kényan, le président de la commission électorale s'avance. Beaucoup disent que Wafula Chebukati a l'emploi le plus difficile du pays. Et malgré les critiques contre son institution et les pressions politiques, l'avocat estime avoir accompli sa mission.
Nous avons pu organiser une élection libre, juste et crédible. Nous avons fait tout ce qui était possible. Et je souhaite que ce soit le dernier scrutin où nous ferons face à ces mêmes problèmes. Pourquoi la compétition est-elle aussi dure pour la présidentielle? Quelles sont les racines des divisions qui consument les Kenyans?
La victoire d'Uhuru Kenyatta est annoncée, son camp jubile et chante les louanges du président réélu arrivant pour son premier discours.
Aujourd'hui, je célèbre notre ténacité en tant que nation. N'importe quel autre pays dans notre situation aurait explosé. À tous les Kenyans, votre voisin le restera malgré le résultat politique. Il est votre frère, votre sœur. Chacun veille sur l'autre pour maintenir la paix. Que Dieu bénisse le Kenya. Merci beaucoup.
Le chef de l'État n'a pas tout de suite tendu la main à l'opposition. Il a dit qu'il attendait l'épuisement de tous les recours judiciaires et qu'ensuite il dialoguerait. En tout cas, il s'est dit prêt à un autre processus électoral. Si jamais l'élection est annulée une seconde fois, ce serait alors du jamais vu.
Le Zimbabwe maintenant dans l'actualité de 2017, dans la seconde partie de cette année, et un coup d'État qui n'a pas dit son nom à la mi-novembre et qui a poussé en tout cas Robert Mugabe à quitter le pouvoir qu'il occupait depuis 37 ans. Emmerson Mnangagwa lui succède le 24 novembre et prête serment.
Our economic policy will be predicated on our agriculture.
Notre politique économique s'appuiera sur notre agriculture. C'est le meilleur moyen de créer des conditions d'un redressement économique en mettant l'accent sur la création d'emplois. Des choix stratégiques doivent être faits pour attirer les investissements directs étrangers, mais aussi pour s'attaquer au taux de chômage très élevé, tout en transformant notre économie. Les nombreux Zimbabwéens qui ont quitté le pays pour différentes raisons au cours de ces dernières années doivent revenir pour participer au redressement général de notre économie et permettre à notre nation de décoller sur ce plan. L'infrastructure fiscale et sociale doit être réparée et élargie pour engager notre pays dans la voie de la croissance économique, de la création d'emplois, de l'égalité, de la liberté et de la démocratie.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Cette année encore, vous avez été très nombreux à nous écrire, soit à cette adresse, soit sur la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Nous vous en remercions de tout cœur. Continuez, bien sûr. Je salue aujourd'hui notamment Mohamed. Il est ingénieur et le directeur général du Marathon international de Nouadhibou en Mauritanie. Bonne fête à vous, Mohamed. Je salue François à Cotonou au Bénin, qui salue Pascal à Lyon. Bonjour à Mokhtar, à Richard Toll au Sénégal, à Betao à Kinshasa, à Jonas à Lubumbashi. Pour lui, la question des migrants en Libye est le fait de l'année. Bonjour également à Janvier, à Rutshuru, un salut et de bonnes fêtes à Tierno, à Labé en Guinée. Jérusalem doit être avant tout une ville sainte, écrit-il. Enfin un petit bonjour à Jules, à Lomé, à Souleymane, à N'Djamena et Hassan à Montpellier.
Année en Afrique.
Et merci d'être fidèle à notre radio RFI, notre radio préférée à toutes et à tous. Alors, on va revenir, Yann, sur ce chapitre important, les élections en Afrique. Il y a eu ces derniers jours l'élection au Libéria, qui était un rendez-vous important. Il y a eu au début de l'année les élections en Gambie, le 26 janvier, Adama Barrow est rentré à Banjul et a prêté serment. Vous le rappelez d'ailleurs dans le hors-série. Et donc, un processus électoral en marche, si j'ose dire.
Oui, un processus électoral parfois heurté, mais parfois aussi victorieux. On l'a vu avec l'élection de la fin de l'année précédente en Gambie et puis la prestation de serment du nouveau président. Et puis on l'a vu aussi cette décision très surprenante de la Cour suprême kényane qui a annulé le premier scrutin puisqu'il a fallu le refaire. Ça, c'était très inédit en Afrique qu'une Cour suprême prenne l'initiative d'annuler un scrutin gagné par un président sortant, etc. Ouais. Bon, mais bon, ça n'a pas convaincu l'opposition de participer au deuxième tour parce que la commission électorale n'avait pas été suffisamment amendée à son goût. Mais quand même, ça veut dire que ça a créé un précédent. Le Zimbabwe, c'est un peu un cas à part parce que les élections doivent avoir lieu en 2018. Nous avions programmé pour leur série un article là-dessus que nous avons été obligés de refaire complètement au dernier moment. Victoria Moretti, la chercheuse qui l'a écrit, l'a totalement remanié parce qu'effectivement, il y a eu cet étrange coup d'État qui avait
inattendu.
C'est un côté un vaudeville un peu tragique parce que ça veut dire quoi? C'est le le vice-président qui était le fils préféré, fils intellectuel évidemment, de Mugabe depuis la lutte de l'indépendance, donc depuis 40 ans, est écarté au profit de l'épouse et puis il part en exil et il revient avec avec l'appui de l'armée. Donc moi je ne suis pas très rassuré pour le Zimbabwe parce que Mnangagwa est quand même l'âme damnée du régime depuis ses origines. C'était le vice-président, c'est l'un des hommes qui a été responsable des massacres au début du régime indépendant contre l'Ndebele. C'est l'homme des services secrets, c'est aussi l'homme de l'influence de la Chine, qui n'est pas la puissance la plus favorable à la démocratie qu'on puisse trouver en Afrique. Donc je ne suis pas très rassuré, et il y a des élections l'an prochain, je suis sûr que le président par intérim sera candidat. J'aimerais bien qu'il ne soit pas réélu, que l'alternance puisse enfin fonctionner au Zimbabwe. Malheureusement, l'opposition est très divisée. Là, il y a aussi des querelles de personnes, des ambitions de gens qui ont été trop longtemps dans l'opposition, qui veulent absolument tenter leur chance. Donc, je suis pas absolument rassuré pour le... Et la question, c'est de savoir si Mnangagwa est réélu. Est-ce qu'il est capable de faire une autre politique que celle qu'il a faite pendant plus de 30 ans sous la houlette de Mugabe?
Alors, en Afrique australe, Yann, il y a à côté du Zimbabwe un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, avec un président Jacob Zuma qui s'accroche au pouvoir, alors que l'ANC a désormais, on le sait, un nouveau patron en la personne de Cyril Ramaphosa.
Oui, qui n'est pas le patron que souhaitait Jacob Zuma, ouais. Qui voulait mettre son ex-épouse à la tête du parti, notamment pour des raisons, j'allais dire, sottement judiciaires. C'est que si effectivement, en 2019, Zuma n'est plus président, la justice va pouvoir lui tomber dessus. Or, il a au Basque un certain nombre de dossiers très lourds de corruption. Et je pense que si jamais Cyril Ramaphosa est élu président, il laissera faire la justice de son pays, ce qui serait pas très bon pour Zuma. Donc, c'est une très mauvaise affaire. La question, c'est de savoir si en 2018, Zuma va faire ce qu'avait fait Mbeki à la fin de son mandat, c'est-à-dire démissionner. Il avait été désavoué par son parti, il a démissionné. De ce que je comprends de Jacob Zuma, c'est pas trop dans son tempérament. J'ai l'impression qu'il va s'accrocher jusqu'au bout. Il risque d'avoir une lutte interne. En même temps, l'ANC est très inquiète de son audience aujourd'hui dans l'opinion. Est-ce qu'elle a intérêt à se diviser? Est-ce que Ramaphosa a intérêt à diviser le parti? Il a été élu président du parti, mais flanqué d'une direction où il y a de nombreux partisans de Zuma. Donc il n'a pas vraiment les coups des franges pour agir comme il le voudrait.
Alors je précise que dans ce hors-série intitulé « Quel monde en 2018 » dont vous êtes le rédacteur en chef, vous revenez aussi sur la situation qui a marqué 2017 au Cameroun avec des affrontements sévères dans la zone dite anglophone.
Absolument, et puis le Cameroun qui se prépare à des élections aussi l'an prochain, donc la question c'est de savoir si Paul Biya va être réélu une énième fois, avec des tensions effectivement dans les régions anglophones, des tensions qui sont inquiétantes parce que on est parti d'une revendication notamment concernant les avocats, et on a maintenant un mouvement de guérilla, un mouvement qui commet des attentats, donc une répression assez forte du pouvoir, et puis toujours, il faut le rappeler, Boko Haram au nord, qui est actif dans la région de l'extrême nord, et tout ça fait des tensions dans un pays qui jusque-là donnait l'impression d'être gouverné par un président dictatorial, mais avec relativement peu de tensions internes.
En tout cas, on va terminer avec une bonne nouvelle, la libération de notre confrère Ahmed Abba, qui était en détention depuis 29 mois dans les geôles du Cameroun. Ahmed Abba, notre correspondant en langue Haoussa, une bonne nouvelle?
Oui, c'est une très bonne nouvelle, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'autres pays où un certain nombre de journalistes sont soit tués au cours de l'exercice de leur fonction, soit incarcérés, embastillés, parfois oubliés dans les geôles du pouvoir.
Autre bonne nouvelle, c'est le signal d'alarme qu'avait lancé l'ONU au début de l'année à propos de la famine. En fait, il est démontré que cette famine a été moins importante que prévu.
Beaucoup moins importante, il faut s'en réjouir, il faut aussi se demander si...
J'ai cherché de bonnes nouvelles pour terminer.
Oui, vous avez raison, mais il faut se poser la question de savoir si les Nations Unies doivent lancer des appels aussi catastrophistes, et si au bout d'un moment, ça n'est pas contre-productif, parce que si vous lancez un appel comme ça et qu'il ne se... Il s'est passé des choses graves en Afrique du point de vue de la malnutrition. Il y a eu des poches de famine, indubitablement, mais pas au point de ce qu'avait dit O'Brien, qui est le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Au bout d'un moment, si on lance des appels trop catastrophiques, on n'est plus cru, et notamment les bailleurs de fonds, des États qui ont de l'argent, qui sont capables de le mettre à disposition, risquent de ne plus répondre aux appels. Donc je suis partagé sur ces appels catastrophistes.
Merci Yann Mince, il faut lire absolument ce hors-série intitulé « Quel monde en 2018 ?» Tous les points chauds de la planète, les analyses des meilleurs spécialistes, les grands enjeux mondiaux, je lis la une de ce bon magazine. Je le recommande vraiment parce qu'il va, si vous vous intéressez aux relations internationales et à la vie du monde, il va vous accompagner pendant toute l'année. Et nous, on va se retrouver régulièrement, on va continuer dans cette émission dans les semaines et les mois qui viennent. Une semaine d'actualité devenue une année d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. La semaine prochaine, retour bien sûr d'une semaine d'actualité, toujours avec les reportages de la rédaction et un invité. Yann, nous allons terminer ce magazine avec ce rendez-vous que nous avons institué chaque année. Je rappelle que vous êtes chroniqueur de jazz au journal La Croix et chaque année, depuis des années, vous nous choisissez un morceau. Et qu'avez-vous apporté, vous, le Père Noël, avec un peu de retard dans votre hôte?
J'ai apporté un petit bijou qui est un album enregistré sur scène par trois musiciens, un pianiste italien et deux musiciens danois. Ces musiciens avaient fait en 97 un album en studio qui est un de mes albums préférés, très honnêtement. Et chance, visiblement, ils avaient fait un concert à la même époque dans un club de Copenhague et quelqu'un a branché des micros et l'album est sorti. C'est un album qui s'appelle Yesterday. Je donne les noms des trois musiciens parce que c'est important. Le pianiste s'appelle Enrico Pieranunzi, c'est un pianiste italien. Le bassiste, qui est mon préféré dans cette affaire, s'appelle Mats Winding. Et le batteur s'appelle Alex Rill, pardon. Et l'album s'appelle Yesterdays. Et le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter est un vieux morceau de Fats Waller. Une valse. Moi, j'aime beaucoup les valses. Il s'appelle Jitterbug Waltz. Et qui était interprété ici par les musiciens. Et écoutez notamment le son de la contrebasse de Mats Winding, qui est exceptionnel.
Merci Yann. Bonne fête, bonne fin de semaine, bonne fin d'année. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.